Mesdames, Messieurs, j'ai donc le plaisir d'accueillir mon collègue et ami, le professeur Eudald Carbonel, qui est professeur à l'Université de Tarragone et qui est co-directeur, c'est bien ça, des prospections et des fouilles qui sont conduites dans la Sierra de Atapuerca, au nord de l'Espagne, pas très loin de Burgos, depuis maintenant près de 3 décennies. Ça aussi, c'est important. Voyez, on parle en décennies. C'est 3 décennies dans la Sierra de Atapuerca, et pour moi, c'est 3 décennies en Afrique, c'est-à-dire qu'on est dans le même ordre de grandeur. Hein. Les choses se font aussi dans le temps. Quoi, hein. Merci, Eudald, d'être venu. En effet, et c'est extrêmement important, et surtout dans l'histoire que j'essaie de vous raconter, qui est aussi notre histoire, Eudald, avec son équipe, a mis au jour cet homme qui, pour le moment, est le plus ancien Européen connu. Alors, quand vous regardez Eudald, il est le père du plus ancien Européen. Oui, bah, moi je suis en Afrique. mais vous imaginez le chemin parcouru, vous allez voir les dates qui vont vous être données. Et que ce soit, et ça me semble extrêmement important, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique, ces décennies qu'on a passées les uns et les autres, et on n'est pas si nombreux que ça finalement, sur le terrain, ont permis de faire reculer considérablement dans le temps nos connaissances. Eudald, c'est toi qui es venu pour faire la conférence, donc tu as la parole.
Merci, et merci. Merci, mon ami Michel, je suis très heureux d'être entre vous, ici au Collège de France, pour expliquer des découvertes à Atapuerca. Vous connaissez que la discussion, le débat sur les premiers peuplements dans les planètes, c'est un débat récurrent. Quand j'étais étudiant, on discutait déjà l'origine humaine, si c'est à l'Asie ou c'est l'Afrique, et on discutait quand arrivent les hominides à l'Europe. J'ai dit toujours que c'est un débat récurrent. Mais dans les débats récurrents et dans les connaissances scientifiques, ce que c'est plus important, c'est le domaine empirique. Tant qu'on ne trouve pas des fossiles, on n'a pas capacité de contrastation des hypothèses. Donc ça, c'est la science. Hein. Ça, c'est l'évolution. Donc, nous avons eu la chance, après une démarche de 30 années, de trouver dans les sites préhistoriques d'Atapuerca des hominides, après tout près d'un million et demi d'années, des hominides dans un autre site de près d'un million d'années, et des milliards de fossiles d'un autre hominide à 500 000 années. Donc nous avons une échelle évolutive dans les mêmes complexes à Atapuerca. Ça, ce n'est pas une chose normale. Dans ce complexe évolutif, par exemple, nous avons 3 restes humains à 1,3 million. Nous avons presque 200 restes humains d'un million. Et nous avons près de 7000 restes humains de 1,5 million. Donc, nous avons la présence d'un individu, un hominide, le premier fossile le plus ancien trouvé en Europe, à Elefante. 11 minimum individus d'un million d'années, près d'un million d'années, trouvés dans notre site à la Sierra Tapuerca Grandolina, et 30 individus trouvés à la cima de los huesos. Ça, c'est l'échelle empirique que nous avons, qui a fourni le site de Atapuerca. J'ai mis ici des éléments de les grands débats et après, j'ai fait la contrastation à Atapuerca à niveau empirique. Les grands débats à l'Europe, c'était toujours si les premiers peuplements, c'était ancien ou c'était récent. J'ai dit déjà, Michel, toujours il y a eu la grande discussion d'un grand décalage pour le genus homo entre l'Afrique et l'Europe. À mon avis, ce décalage va disparaître. Il est en train de disparaître. Donc, je me souviens que la grande discussion, il y avait deux grandes propositions scientifiques. C'était la jeune Europe, une Europe qui n'avait pas de peuplement humain autour d'un demi-million d'années. Cette proposition s'était faite pour des chercheurs du nord de l'Europe. Et il y avait une proposition qui a été faite déjà, ancienne, pour des chercheurs, par exemple, mon prof Henri Delomblay et des autres, qui avait un peuplement ancien de plus d'un million d'années à l'Europe. Donc, ça, c'est un grand débat. Et comme vous verrez, Atapuerca a donné des contrastations empiriques qu'il y a une Europe mature, une Europe ancienne. Après, on va parler aussi de son relation avec Deman ici. Un deuxième débat historique, c'était quelle route était utilisée pour les hominides africains pour arriver à l'Eurasie. Vous connaissez bien les discours de les passages pour Gibraltar, du nord de l'Afrique à la péninsule ibérique. Les passages pour le dique tunisien, c'était un principe de siècle déjà émis. Et les passages traditionnels pour le couloir palestin, mais aussi pour le camp de l'Afrique. Ça, c'est dans notre discussion récurrente du passage des hominides. Avant, c'est que du sud à nord, maintenant, ça paraît qu'il peut changer aussi, et c'est du nord au sud. Ce sont des discussions ouvertes. En troisième question, c'était toujours son culture et la technologie, l'association entre biologie et culture. Hein? S'il y a une structure mécanique, une corrélation mécanique, un type de biologie, un type anatomique, un type de technologie, ou non. Ou s'il y a un type anatomique, peut avoir deux, trois sortes de cultures. En quatrième question, c'était qui étaient les premiers habitants, l'espèce, la discussion historique sur les espèces. Si c'était une espèce, si ce n'était pas une espèce, il faut travailler qu'au genus, etc. Et la caractérisation de cette espèce. Pour caractériser une espèce, il faut trouver un holotype. Il faut trouver des marqueurs morphologiques différenciés des autres. Donc, ça, c'est. Et pour trouver ça, il faut trouver toujours des fossiles humains. Tant qu'il y en trouve beaucoup, on est capable de voir son variabilité et de fixer cette notion d'espèce. Et une question finale, à mon avis basique, c'est la continuité ou discontinuité du peuplement européen ou euro-asiatique. Donc, vous connaissez qu'il y a des hypothèses qui disent qu'il y a de dispersion, des chutes démographiques, des disparitions, un autre flux migratoire qui vient, qui se diffuse pour l'Eurasie, pour arriver à la dispersion de notre espèce Homo sapiens. Mais il y a aussi des autres questions qu'on va voir à niveau empirique, comme la conduite humaine, l'organisation sociale, et des questions que nous avons mises à point en Atapuerca. L'accumulation intentionnelle de cadavres, ça fait un demi-million d'années, ça c'est notre hypothèse. Et la première preuve de cannibalisme à l'histoire de l'évolution, ça fait un million d'années. Donc, pas du tout, pas, parmi les. Il y a beaucoup de questions à discuter et de matériel empirique interprété à Atapuerca, parmi lesquels le cannibalisme plus ancien et l'accumulation intentionnelle de cadavres, c'est deux questions conductuelles singulières et c'est un épiphénomène pour l'ancienneté des découvertes et pour la façon de se présenter ces sortes de fossiles. Image par ailleurs, je ne comprends pas. Ça peut-être que ça coûte. Non, j'ai fait. Une autre fois. Ah, ça marche. Une autre fois. C'est il faut deux fois, oui. Bon. Nous, on va aller sur le plan empirique. Les fossiles n'apparaissent pas dans les laboratoires, ça, il faut le dire, parce que nous avons des collègues qui cherchent dans les laboratoires, mais ne trouvent pas de fossiles. Les fossiles viennent de les sites et il faut fouiller les sites. Le site d'Atapuerca, c'est un site très connu. C'est une grotte. Les principaux anciens sites, c'est une grande grotte dans un système karstique, vous voyez, à 3 km. Donc, il y avait une grotte qui c'était Cueva Mayor, que dans le 19e siècle, à moyen 19e siècle, on fait déjà des concerts de musique classique. Ça fait 160 années. Et c'est la première grotte qui a été visitée, qui avait des visites guidées à l'Espagne. Nous avons des documentations très intéressantes sur le site d'Atapuerca, qui maintenant est plus bien connu qu'avant. Donc, on voit qu'il est bien connu déjà, il est bien exploité. Mais, dans ce cas, on ne connaissait pas l'enregistrement pléistocène. On ne connaissait que les gisements holocènes. Je ne vais pas parler aujourd'hui, il fallait beaucoup de jours pour parler d'Atapuerca, mais nous avons des sites holocènes incroyables, avec des centaines d'accumulations de nécropoles. Nous avons des peintures rupestres, des gravures, pour l'Holocène. Moi, je ne vais pas parler. Donc, c'était connu, ce site, pour l'Holocène. Et tous les préhistoriens européens, les Français, ils sont venus, ils ont vu le site, etc. Obermayer, entre autres. Bon. Mais c'est en 60... Non, ça fait 34 années. Un ingénieur qui fait sa thèse doctorale sur les oocides de l'Espagne, il est arrivé à Burgos. Il a demandé des grottes avec des accumulations d'oocides. Il a dit, ah oui, il y a un site dans la Sierra de Atapuerca, dans la grotte Cueva Mayor, qui s'appelle Cima de los osos, osos en espagnol ça veut dire ours, o cima de los huesos, que est la cime de les ossements. Il y a des milliers. Donc, ce groupe spéléologique et l'ingénieur sont allés, ils sont descendus à la cima de los huesos, les gisements en bas. Vous voyez le réseau karstique. En bas. Et ils ont enlevé des sédiments du fond de cima de los huesos, dans le site de Cueva Mayor, et il y avait, dans les sédiments enlevés, il n'y avait pas que des ours, il y avait beaucoup de restes humains. Surtout la mandibule 1, que c'est le classique qui a été remis au professeur Emiliano Aguirre, que c'est mon professeur aussi, et c'est lui qui a organisé les projets qui continuent à l'actualité. Donc les projets s'organisent en 78. Alors, il a continué pour Emiliano Aguirre jusqu'à 91 et pour Arzuaga, Bermúdez et moi à partir de 91. Donc c'est 31 années de recherche dans les grottes du complexe de la Sierra de Atapuerca. Dans cette recherche, il apparaît, nous avons maintenant autour de 500 gisements, à Atapuerca, 550, à plein air et en grotte, donc c'est une immensité, parmi lesquels, Cima de los Huesos, on a vu la découverte, Cima de l'Elefante et Dolina sont les plus importants. Mais il y a par exemple Galeria, Mirador, Portalón, etc. Et il y a une caractéristique unique dans le registre mondial. Dans toutes les grottes, il y a des restes humains, de Pléistocène moyen ou de Pléistocène inférieur. Donc, les gisements, c'est bien juste de se commencer. Il y a pour milliers d'années, tant que vous voulez fouiller. Donc, ce sont des grottes qui ont 40 mètres de terre, elles sont complètement colmatées. Donc, il y a des millions et millions de mètres cubiques de sédiments avec fossiles. Donc, il y a du travail pour l'espèce, tant qu'on les connaît, tant de travailler dans le complexe karstique d'Atapuerca. C'est le complexe karstique, vous le voyez, au nord de Madrid, dans les zones de Burgos, dans une zone de passage entre l'est et l'ouest, donc il est bien placé sur le Camino de Santiago, c'est juste passé pour ici. Donc c'est un endroit stratégique pour connecter le nord de Cantabrique, la Meseta, l'est, l'Ebre et l'ouest de l'Ebre. Donc il se trouve très bien placé dans ce système. Et je commence pour la dernière découverte. La dernière découverte, c'était cette mandibule. Vous la voyez ici. C'est la partie antérieure. Et que, tant que vient d'apparaître, mon collègue Bermúdez de Castro, il me dit, j'ai dans les labos à Burgos des mandibules de Demanissi. Et quand il m'a dit, bon, j'ai vu déjà qu'il y a un menton qui paraît, j'ai vu déjà cette sorte de menton. Dans des autres fossiles africains, comme OS-7 ou OS-13, KNMR 30 et UR-501. Donc, on a vu déjà des caractéristiques assez archaïques et africaines dans cette fossile. Ce n'est pas la même chose que Heidelbergensis et Néandertalien. Ce n'est pas la même chose. On discute maintenant si c'est une espèce ou non, mais de toute façon, c'est un mandibule, ce n'est pas un maxillaire supérieur, ce n'est pas un crâne, mais il y a des caractéristiques assez archaïques dans ces mandibules. Caractéristiques de ces mandibules, c'est son datation, après on va parler, datation 1 million D, sans doute, disait Michel déjà, à l'Europe polythycastique le plus ancien fossile trouvé jusqu'à maintenant. Il y a une absence de menton, mais des dents très usées, ses pieds robustes, il est en phase interne avec Taurus, et ses morphologies primitives, qu'on a dit déjà. Donc ça, c'est la mandibule qui a été découverte à la cima de l'éléphant. Bon. Cette mandibule a été, c'est une femme de 30 années, une femme âgée, à peu près, s'était trouvée associée à des outils. Hein? Donc, ce n'est pas une découverte paléontologique, c'est une découverte archéopaléontologique. Cette découverte s'était associée à outils taillés en silex, 30 outils dans le niveau 9. Mais que déclare ? Il n'y en a aucun nucléus. Il y en a, il y a des choppers, chopping tools. Il n'y a que des éclats. Il n'y a pas de biface, il n'y a pas de pic, il n'y a pas de ce qu'on considère les modes de Wachulen. Donc, nous pensons qu'on se trouve dans les domaines oldowayens. Comme vous voyez, l'état de conservation, ce n'est pas homogène. Vous voyez des silex comme ça. Donc, nous connaissons qu'il y a pas mal de pièces qui ont disparu. Et on a trouvé ces sortes de pièces à bonne qualité parce qu'il s'agit du silex crétacique et pas du silex néogène. Donc, le silex néogène, nous pensons un million et demi, beaucoup, ou en partie important d'eau. Ce silex qui a roulé, qui a bougé pour la grotte d'un poisson mécanique, il a disparu. Les éclats, ils sont entre de 3 à 7 cm de moyenne. Et on a fait des études pour trouver s'il y a des empreintes d'usage. Et pour le moment, on l'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Mais avant, j'ai parlé que c'était à niveau archéopaléontologique. Mais bien sûr, et il y a des interactions. Parce qu'il y a, il y a, il y a des marques de couteaux, il y a des marques sur les ossements. Les ossements d'herbivores qui se trouvent dans le même niveau. Et c'est exceptionnel parce qu'on trouve 3 sortes de marques sur les ossements. À la partie supérieure, vous voyez 2 marques de percussion. Ils ont été percutés sur la pierre. Il y a des impacts qui indiquent qu'ils ont été coupés pour avoir la moelle de l'os. À gauche, vous voyez un raclage incroyable dans cette partie anatomique pour enlever les périostes. Et à droite, vous voyez des impacts, des éclats sur les ossements. Donc, nous avons une association parfaite en archéologie qui prouve l'anthropisation à l'Europe. Ça fait 1,2 million, 1,3 million. Après, on va voir la position de ces ossements. Le site. Vous voyez que je commence pour les fossiles et je vais finir pour voir la position de le site. Bon, le site, la géologie du site. Vous voyez la partie supérieure, Ça, c'est le calcaire crétacique. Et c'est le toit de la grotte. Ça, c'est la sédimentation argileux, caillouteux, de près de 22 mètres. Nous avons 14 ici et nous avons un sondage jusqu'à 22 mètres. Vous voyez les matériaux, il entre pour ici et pour un autre entrée qu'on ne les voit pas, que c'est à l'autre côté de. Que c'est à l'autre côté. Nous avons 23 niveaux, on va voir après, et vous voyez la grotte, la sédimentation, et qu'elle a été collapsée. Et vous voyez des positions de changement jusqu'à les derniers compléments. Bon, à niveau faunistique, vous voyez les 21, il y a 21 niveaux. À niveau faunistique, ce qui nous intéresse, c'est le complexe, cette complexe, les 14 nefs. La mandibule a été trouvée et les outils dans les niveaux nefs. Donc, 14 nefs, hein, c'est l'ensemble qui donne. En fond de Dama, Eucladocerus, Ecus, Pantera, Sus, etc. Mais il donne un moustélide qui disparaît, qui est de Pliocène, Pleistocène, qui est le Panoxidis, associé à Pliomis, Castimiomis, Ungaromis, qui est un microphone classique de la base du Pleistocène inférieur. Qu'on ne trouve pas dehors à Taporca. On ne trouve que dans ces sites. Donc, dans ces niveaux-là, on n'a pas trouvé de pollen, mais pour la microfon, on voit qu'on se trouve dans une période calide et humide. Calide et humide. Donc, et qu'il y a des changements dans toutes les séquences et on a fait une proposition pour accrocher au Vaalien, ça veut dire entre 1,3 million et 1,5 million, la situation de ce complexe, de cette anthropogenèse, de ce contexte paléontologique de Cima de l'Elefante. Et les datations. Vous voyez la colonne. Nous avons fait pour un spéléothème qui est juste à la partie droite sud de la grotte. Maintenant, on essaye d'uranium plomb pour voir les limites plus anciennes de sédiments. Nous pensons qu'on peut arriver jusqu'à 1,8, jusqu'au Douai. Nous avons dans la grotte des paléomagnétismes que, hypothétiquement, peut arriver à All the way, 1,8. Vous voyez ici, entre 16 et 17, l'échange de polarité magnétique de la Terre. Matuyama Brunner. Ça veut dire qu'à partir du 17, toute la séquence, c'est Pléistocène inférieur. Donc nous avons trois quarties parts de Pléistocène inférieur. Et qu'en partie de Pléistocène supérieur dans cette séquence. Et le niveau nef a été daté pour nucléotide cosmogénique, le béryl et d'autres, qui a donné 1,2 million. De nouvelles datations peut donner 1,3 million. Mais nous sommes dans le domaine 1,2 million et 1,3 million. Bon, vous avez vu déjà. La découverte, la situation des premiers fossiles humains à l'époque. Ça c'était fait au dernier 19e pour passer un train qui descendait minéraux de la Sierra de la Demanda à Burgos De Burgos, il passait à Bilbao, au Cantabrique, et après, il allait se les faire à l'Angleterre. Donc, dans cette range, se trouve le site de la Grande Dolina à 1 million d'années. Nous avons 11 niveaux de l'eau en bas. C'est le même type d'accumulation exogène que nous avons vu. Et nous avons, à partir du niveau 7, une inversion paléomagnétique, donc Pléistocène inférieur. Et c'était ici qu'on a trouvé cette nouvelle espèce en 93-14, que c'est Homo antecessor, que nous pensons que c'est la première espèce qui a évolué à l'Europe. À l'Europe, à notre avis, notre hypothèse, c'est qu'il y a deux espèces européennes, Homo neanderthalensis et Homo antecessor, les deux espèces qui ont évolué à l'Europe. Vous voyez ici une centaine de restes qui ont été trouvés dans ces sites de Grandolina. La datation s'était aussi faite pour ECR, pour paléomagnétisme, pour thermoluminescence, et il y a une oscillation entre 800 et 900 000 années. Vous voyez, c'est un fossile exceptionnel. Il y a un frontal fouillant avec une morphologie très primitive, une capacité crânienne de 1000 cm cubiques, très robuste. Mais quand vous voyez les maxillaires, c'est un maxillaire qui paraît un maxillaire d'Homo sapiens, avec des dépressions suborbitales et avec une structure moderne. Si on le trouve à l'Holocène, à la grotte, on dit que c'est un fossile néolithique. Mais les dents, ils sont des dents assez très anciens. Il était associé aussi à l'industrie du mode. Je raconte comme ça fait qu'on trouve Homo antecessor. Première 90 de cycle passé, les Anglais, ils ont publié à Nature, un porté, qu'ils ont peut-être le plus ancien habitant de l'Europe. Hein? C'est la découverte qui a été faite à Vauxgrom. Nous avons fait un projet rival à les Anglais et nous avons fait un sondage, nous avons activé un sondage décimé carré pour démontrer que le protocole qui était publié à Nature, qui disait qu'il n'y avait pas à l'Europe des fossiles de 500 000 années, c'est l'hypothèse de la genèse de l'épopulement européen. Ce n'est pas une hypothèse consistante et on a trouvé Mimomi Sabini associé à l'industrie et associé à des restes humains. Donc, ça, vous voyez ces caractéristiques de l'Oldowayen, l'industrie que vous voyez, des éclats en bas, des éclats en quartzite, ça c'est différent que l'éléphante, des polyèdres et d'orthogonal, des chopères, etc., qui se trouvent associés à cette hominide. Et ici apparaît cette question de conduite humaine. Les 60% du reste squelettique de cette hominide, il y a marque des outils. 60% crâniel et post-crâniel. Donc, il y a une intervention humaine sur le reste, systématique. Nous avons un individu et on voit qu'il y a un système de dépiaissage systématique, toujours le même. Ces hominides, ils prennent, nous pensons, les petits chassés parce qu'il s'agit 90% d'enfants. 90% d'enfants. Par les hominides, vous voyez, pour l'esternocleidomastoideo, il coupe la tête, il coupe les bras, il coupe les jambes. Après, il s'élève d'enlever la tête, il casse la tête pour le frontal et on trouve des marques dans le temporal pour enlever le cuir des cheveux. Et on trouve des orthopodes mordus. Les phalanges, ils sont systématiquement mordus. Ils sont coupés pour le digitus flexorum. Ils sont absolument mangés. Il y a des impacts dedans. Dans tout le... Vous voyez, ils sont des marques nettes, très nettes et systématiques. Donc, ils sont dépiécés. Bon, ça, c'est la question empirique. Et après, c'est l'hypothèse. Ça, c'est clair que c'est du cannibalisme. Ils sont traités comme les autres animaux. On les trouve dans les mêmes contextes. Mais, première question, pourquoi c'est presque tout infantile? La majorité infantile. Si on étudie le peuplement de Atapuerca, on voit qu'il n'y a pas... Il y a des présences humaines très faibles, 1 million, 3 millions, 4. Mais tout d'un coup, à 1 million, il y a un impact humain très fort. Il y a qui coïncide avec un amélioration climatique. Atapuerca, c'est 900 mètres, c'est très froid. Par exemple, ça fait 10 années, il a neigé dans la campagne de fouille que c'est été. Vous voyez la situation du site à la Sierra. Donc, on voit qu'il existe un impact qui arrive des centaines d'hominides tout d'un coup à la Sierra. Et notre hypothèse, c'est qu'il s'agit de cannibalisme culturel, pas rituel. Culturel. C'est cannibalisme gastronomique, parce qu'on voit que c'est dépiécé, ils sont mangés, mais qu'il s'agit de cannibalisme culturel. Pourquoi ça? Dans le niveau qui a été trouvé ces restes, ce n'est pas un évent. Ils sont minimum 3 évents. Donc, c'est de dizaines aux centaines d'années qu'il y a des cannibalismes dans la zone. Et notre hypothèse, c'est que les hominides qui arrivent dans cet écosystème établissent une compétition pour éviter, bien sûr, pour les charges démographiques du système, pour éviter la compétence. Bon, nous voyons l'interprétation de restes humains dans le cinéma de l'éléphant. Vous connaissez que nous avons associé et on disait que c'était tout au moins antécesseur. La mandibule, ce n'est pas beaucoup, mais nous pensons qu'à 1,4 million, 1,3 million, 800 000, 900 000 années, nous avons à l'Europe une espèce européenne. Donc, la mandibule de l'éléphant est une morphologie très primitive et similaire à des manicies, les sites caucasiens, à 1,8 million. Et ce reste, ce que c'est curieux de mandibule, ne présente pas de caractère dérivé de pré-néandertalien ou de néandertalien, la mandibule. Donc, nous pensons qu'il s'agit d'une espèce qui a évolutionné de Homo georgicus. Bon, ça c'est notre ancienne hypothèse. Et aujourd'hui, je vais parler de notre nouvelle hypothèse. Notre ancienne hypothèse, qui a été publiée à Science, s'est découverte. C'était que Homo antecessor évolue d'Homo ergaster africain et que Homo antecessor, il y a des caractères morphologiques pour le phylum néandertalien et pour le phylum sapiens. Donc nous pensons que l'hypothèse était qu'en Afrique, à 1 million d'années, on va trouver Homo antecessor hein, qui va évoluer à Homo sapiens, et qu'en Europe, son cousin, il va évoluer à Homo heidelbergensis, à Homo neanderthalensis. Bon, après de nouvelles découvertes, nous ne pensons pas que ça c'est une interprétation correcte. Nous pensons que Homo antecessor, c'est un descendant de Homo georgicus, ou de cet hominide du Caucase, et qu'il n'évolue pas à Homo heidelbergensis, et non plus à Néandertal. C'est un hominide qui gâte son filum évolutif. Et c'est un hominide euro-asiatique, mais pas un hominide africain. Par contre, Demanisi, c'est un hominide avec des caractères très semblables à des hominides africains. Mais il y a des discussions entre les anthropologues maintenant de ce qui se passe avec son variabilité, s'il y a des morphismes, etc. Mais à mon avis, Homo antecessor, c'est un allopatrie européenne. Donc, ma proposition, notre proposition, c'est qu'à l'Europe, dans le subcontinent, nous avons ces deux espèces. Homo antecessor, qui va disparaître au bord de 600 000 années, 700 000. Et après, à 250 000, Homo neanderthalensis. Deux espèces typiquement européennes. On va continuer. Et pour finir, on va expliquer les derniers sites de la cima de los huesos à Cueva Mayor, Cueva del Cielo. Vous voyez la grotte, l'entrée de la grotte. C'est un grand diaclase, un pan extensionnel. On entre pour ici. Et après, un demi-kilomètre, on arrive à l'épuis de la cima de los huesos. Mais ça, c'est maintenant. Avant, il y avait une entrée directe. Vous voyez, la cima de los huesos, c'est un puits, ça, il y a 12 mètres de profondeur, et cette zone-là, où se trouve à 12 mètres, tous les fossiles, les près de 7000 fossiles d'Homo heidelbergensis. Ici, Juan Luis, Nacho, qui travaillent dans les petites galeries obliques de la cima. Ici, vous voyez l'accumulation de restes humains à la cima de los huesos. Vous voyez le crâne numéro 5, de mandibule, de postcranial. De datation. Nous avons déjà des dernières datations, des dernières datations faites sur les croûtes stalagmitiques actuelles. Et pour une approche méthodologique, ils donnent 530 000 années. Nous avons des centaines de datations, mais ça paraît que les fossiles, ce n'est pas déjà c'est 500 000 années. C'est Homo heidelbergensis. On parlait avant de la conduite humaine. Bon, la cima de los huesos a permis de travailler des paléopathologies, comme expliqué un peu, a permis de travailler sur une communauté entière, parce que ça s'agit de 29 individus qui sont trouvés en bas, crânial et post-crânial. Mais, à mon avis, ça c'est une grande découverte. Vous connaissez que c'était ça. C'est les os intermédiaires de l'oreille. C'est millimétrique. Nous avons trouvé, dans l'état assez bon de conservation, les ossements de l'oreille, un intermédiaire, moyenne de l'oreille. Ça nous a permis d'établir une hypothèse, parce que normalement, on étudie le langage à partir du tract vocal, de la larynx, la position de la larynx. Et nous avons émis une hypothèse au contraire, si sur la réception du langage. Comme nous avons les ossements, nous avons 18 crânes, nous avons fait un modèle et un prototype
mécanique avec les ingénieurs. Nous avons reconstruit toutes les structures auditives. Et nous avons trouvé, avec la surprise, une surprise incroyable, que le niveau de réception, c'est le même que le nôtre, de 2 à 4 de fréquence moyenne. C'est comme ces hominides. Donc, on peut dire qu'il y a une grande probabilité que le langage n'est pas comme des Chomsky d'espèce, innate dans l'espèce, sinon innate dans les genus homo. C'est clair que ces hominides. Chez les primates, cette structure, ça donne que 2-4 MHz de fréquence que sur l'espèce Homo sapiens. Et maintenant, nous connaissons sur l'espèce Homo heidelbergensis. Mais c'est normal, si nous pensons que c'est une accumulation intentionnelle de cadavres, ce qu'on trouve dans ces systèmes qui ont une grande complexité, inclut le langage, les faits, on ne les trouvait pas tant pour le cas, mais on connaît qu'à 500 000 années, il y a des faits. Déjà, on connaît les faits. Et aussi, que c'est possible que des gravures comme Vincis Leben, ou la Vénus de Tantam, ou la Vénus de Berecadram, ils sont des manifestations déjà symboliques. Qu'est-ce qui se passe dans la distribution d'âge à la cima de los huesos? Il y a des choses qu'on voit ensuite dans cet histogramme à fréquence absolue. Vous voyez, il n'y a pas d'enfant, mais il n'y a pas d'adulte. L'adulte, disons-nous, à partir de 30 années, il n'y a pas assez. Et vous voyez, il n'y a qu'un spécimen qui a plus de 35 années. Une. Et vous voyez, il n'y a qu'un enfant. On a commencé pour la taphonomie, on a dit peut-être les enfants, ils ont disparu. Non, mais il y en a quand même. Donc, normalement, ils n'ont pas disparu de cette site. Et si vous voyez, il y a une chose étonnante, entre 11 et 20 années. Vous voyez, plus de 100% sont morts entre 11 et 20 années. Donc, ça nous dit que cette accumulation, ce n'est pas une accumulation d'un peuple attritionnel normal, c'est une accumulation spéciale qui a une origine que ce n'est pas l'origine normale. Si c'était une origine normale, on va trouver des infantiles, on va trouver une représentation de l'espectre de l'âge. Vous voyez? À Gandolina, que c'est un épisode de cannibalisme, il n'y a que d'enfants. Par contre, ici, qui n'a rien à voir avec le cannibalisme, parce qu'il n'y a aucune trace, que c'est, à notre avis, une accumulation anthropique, il n'y a pas d'enfants. Oh, il n'y a pas une représentation normale. Notre hypothèse, c'est que ces hominides, ils ont un très grand degré de socialisation. Ils ont une grande complexité dans son organisation. Tant que cet âge que vous voyez ici, c'est l'âge d'indépendance, c'est l'âge que dans les structures communautaires, les hominides commencent à avoir un degré de liberté plus grand. Donc le traumatisme et les confrontations, c'est plus grand. C'est curieux que l'accumulation 11-15, 11-14, c'est pour le mâle, et pour la femelle, c'est un peu plus tard. Pour les 8 individus mâles et femelles que nous avons pu contraster. Donc, l'étude actuelle qu'on a faite du traumatisme dans les crânes, c'est incroyable. Incroyable. Il y a des crânes avec des crivores vitalaires à 18 coups systématiques dans le frontal rouge, dans des coups dans la tête. Donc, il y a continuellement une confrontation et ça s'est fait avec des bâtons. Parce que c'est actif, on a fait des essais, on a vu des
des comparatifs avec des mortes actuelles, avec des gens qui sont tués dans ces centres. Et ce que c'est curieux, dans cette accumulation, au fond du puits, vous connaissez, il y a 300 numéros minimum d'ours, ursus de Ningeri, et 30 hominides. Mais il n'y a pas d'herbivore. Il y a une petite représentation des autres animaux, mais il n'y a pas d'herbivore, il n'y a que des omnivores, au fond de ce puits. Quand on a commencé, l'hypothèse était qu'ils ont tombé d'une façon casuelle dans les puits après des années et des années. Mais les dents sont dans la même communauté. C'est morphologie identique, tout identique comme ça. Après, nous avons comparé taphonomiquement la fracture des ossements avec des collections actuelles des gens qui se suicident ou qui tombent d'un bâtiment. Donc, normalement, si elles étaient jetées ou étaient tombées vives, ils auront éclaté la vascularisation, ils auront une fragmentation de tout le squelette. Donc, ils ne présentent pas de fragmentation squelettique. Donc, ils sont jetés avec le ditus rigor mortis, donc la masse, il ne casse pas quand il tombe au fond du puits. Donc, ils sont arrivés, en tout cas, au fond du puits, morts. On va discuter comment, mais ils sont accumulés au fond du puits, morts. On disait toujours, si c'est une chose anthropique, je me souviens des années 80, il faut trouver quelque chose anthropique associé, et ça fait... Cette année, on vient de trouver ça. L'unique instrument qu'on a trouvé dans ce site. Rien de plus. Pas d'éclat, rien. Rien du tout. C'est un biface en quartzite rouge. Jamais on a trouvé cette quartzite dans les autres sites. Bon, à notre avis, c'était un argument plus de que ça, c'est. On a fait l'analyse au microscope électronique de balayage et avec des sondes des électrons, on n'a pas trouvé de reste d'utilisation de cet objet. Bon, nous pensons qu'il y a une grande probabilité que la cima de los huesos s'agit de la première accumulation intentionnelle de cadavres. Ça, c'est l'hypothèse, parce que nous trouvons un niveau taphonomique à notre explication. Vous voyez, ça c'est l'écran plus complet du Pléistocène moyen mondial. Il y a tout. Regardez ça. Ils sont tout pleins. Ils sont des coups. Ils sont des coups partout. Bon, il y a des coups, peut-être ce qui a cassé les dents, etc. C'est un hominide qui a une combinaison de caractéristiques dérivées de Néandertal et pré-Néandertal. À mon avis, c'est les crânes espèces. C'est un Néandertal, c'est le substrat. Le substrat. Donc, cet hominide a 1100-1300 cm³. De capacité. Donc, des exemplaires à 1,80 m, 1,85 m. Sûrement l'espèce plus grande, plus haute de l'évolution. Un centaine de kilos, ils sont des mâles et des femelles extraordinairement gros et puissants. Et sûrement, c'est les hominides euro-asiatiques plus robustes qu'on connaît. Bon, perspectives de recherche. Donc, nous avons pensé pendant beaucoup d'années qu'il faut faire la compétence à Michel, il faut aller en Afrique. Il faut trouver des homos à 1 million d'années, il n'y a pas beaucoup. Il y en a en Éthiopie, mais il n'y a pas beaucoup. C'est curieux. Des homos à 1 million, il n'y a pas beaucoup. Mais maintenant, nous pensons que l'origine, c'est une origine eurasiatique. Donc, nous avons changé un peu l'hypothèse. Nous avons l'hypothèse du 20e, du 10e, du 20e. Il faut chercher dans les domaines eurasiatiques. Et surtout après toute la controverse de Flores, on peut parler de l'homo floresiensis. Il faut continuer la recherche à Taporka en les autres sites européens. C'est clair qu'il faut de nouvelles découvertes. Il faut de nouvelles discussions, mais il faut de nouvelles découvertes. Une fois qu'on a analysé cette reste fossile, il faut réanalyser les autres restes fossiles avec une mentalité différente. Par exemple, l'étude qui s'était faite pour un Néandertalien, qui pour dire qu'il ne part pas, s'était faite sur la chapelle au sang, qui est la reconstruction ancienne. Pas sur la reconstruction moderne, la recomposition de crâniel et tout. Donc, en la reconstruction moderne, ça donne des caractéristiques morphologiques différentes à ce qui a été utilisé pour dire que le Néandertalien ne parlait pas. Donc, il faut réexaminer les données, il faut trouver la façon d'apporter un niveau théorique plus haut, mais surtout de découverte des fossiles plus massifs. Merci pour tout.